Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous à vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore de nous suivre sur Cube Radio. Nous sommes vraiment contents de partager avec vous tous les moments forts de la semaine en économie, en affaires et en finances la semaine. Et cette semaine a été une semaine où on avait la tête dans les nuages, dans les airs et dans l'espace. Le feuilleton touchant à l'avenir de Transat s'est poursuivi avec le refus d'Air Canada de prolonger la date butoir du 15 février pour l'achat du groupe québécois Transat. On a terminé le tout cette semaine avec la course vers l'espace où le Québec va injecter plusieurs millions dans la fabrication de satellites. On va analyser ces deux dossiers-là avec nos spécialistes. Et en terminant, pensant à la tête dans les nuages par ailleurs, plusieurs acheteurs de maisons sont tellement motivés et excités pour acheter une nouvelle propriété qu'ils sautent des étapes. Un rêve qui peut tourner au cauchemar. Bon balado.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous aux affaires. Cube Radio.
Le dossier d'Air Transat a encore fait couler beaucoup d'encre. On se pose la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Le tout a débuté cette semaine avec, évidemment, le refus d'Air Canada de prolonger la date butoir du 15 février pour l'achat du groupe québécois, malgré le OK du ministère des Transports à la transaction. Il y a l'homme d'affaires Pierre Calpelado qui a réitéré sa volonté de parler directement avec Transat pour négocier une entente d'achat. Puis le PM, évidemment, François Legault, a dit qu'il était prêt à faire tout pour sauver Transat. Alors, pour en discuter, je reçois évidemment notre chroniqueur de hebdomadaire, Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut, Michel.
Salut, Yves.
Tu disais dans ta chronique, Transat est condamné à piquer du nez si Air Canada prend les commandes. Qui est dans le couteau de contrôle? Puis c'est quoi les conditions que tu penses qui sont perdantes maintenant pour Transat?
En fait, là, on sait bien, on le voit bien, là, le fait que Air Canada ait refusé de prolonger la date limite. Là. Ça fait que maintenant, Transat est à la merci de l'humeur d'Air Canada. Parce que là, le plan d'arrangement qui avait été convenu ne tient plus. En fait, il tient plus. C'est théorique, là. C'est-à-dire que il tient tant et aussi longtemps que Transat ou Air Canada ne disent pas qu'il sort de l'arrangement. Mais cela étant dit, ça fait en sorte que Transat est suspendu maintenant. Regarde vers le haut pour voir si Air Canada va le retenir. Je trouve que le dossier a pris une tangente vraiment déplorable. Ça n'a pas de bon sens. Plus le temps passe, plus Transat est dans le trouble. Alors que à l'origine, Transat aurait pu tout simplement accepter qu'une offre autre que d'Air Canada soit présentée aux actionnaires, puis peut-être que les actionnaires auraient opté pour l'autre solution qui était en décembre, qui était la solution, l'offre de Pierre-Carl Pelado. Mais cela étant dit, là, on se retrouve justement très, Transat se retrouve très fragilisé. Et puis, tu sais, là, je regarde aller le dossier. Bon, écoute, on aurait eu les moyens, là, au Québec, là, avec que ce soit Pierre-Carl Pelado, mais en plus, on sait que parmi les gros actionnaires de Transat, il y avait le fonds de solidarité de la FTQ, il y avait la Caisse de dépôt et de placement. Mm-hmm. Alors, regarde, le gouvernement Legault, le fonds de la FTQ, la Caisse de dépôt, Pierre-Carl Pelado ou une autre entreprise qui était intéressée à Transat aurait pu se lier ensemble et puis justement assurer la survie de Transat. Alors qu'au moment qu'on se parle, Dieu sait que la survie de Transat ne tient plus qu'à un fil.
Puis en plus, tu as vu quand même les conditions qui ont été imposées dans le cadre de l'accord du ministère des Transports à Canada. Mais là, ça ne tient pas la route, ça.
Ben non, mais tu as totalement raison. Regarde, là, c'est pas compliqué. C'est écrit noir sur blanc. C'est 5 ans. Que Air Canada aurait à conserver le siège social. Alors, ça laisse entendre qu'après le terme de 5 ans qu'impose Transport Canada, puis c'est pas compliqué, Transat, sa bannière disparaît, puis que le siège social disparaît. Puis en plus, 2 ans pour maintenir 1 500 employés. Mais le problème, c'est que Transat en a 5 000. Alors, c'est comme une farce. Donc, les conditions imposées par Transport Canada sont ridiculement basses. Et puis, écoute, si ça continue, c'est justement Transat va être voué à la disparition. C'est pas compliqué.
Bon, ben on va suivre ce dossier-là. On verra. Le PM, François Legault, a quand même dit, et même son ministre de l'Économie, qui était prêt à faire tout pour sauver Transat. Donc, on se verra leur volonté politique à le faire. Et Michel, on revient dans quelques minutes avec toi pour parler justement de la PCU de Trudeau, un gros lot d'impôts pour François Legault. À tantôt.
Le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Et Michel Girard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
Tout le monde sait actuellement qu'il y a environ entre 700 000 et 800 000 Québécois qui s'en vont, ce qu'on appelle des touristes hivernants, qui traversent la frontière américaine chaque année à destination de la Floride, vers le Sunshine State, en vue de fuir l'hiver québécois. Et depuis des années, là, on voit que des gens souhaitent que le temps passé en Floride soit extensionné de 6 à 8 mois comme délai. Mais il y a aussi des Québécois qui font affaire, des restaurateurs, des hôteliers. Mais maintenant, il y a des entreprises, ou une entreprise qui se spécialise en sécurité et surveillance des maisons, qui a développé une niche en Floride, et on reçoit son co-fondateur et propriétaire, M. Russell Miller. Bonjour, M. Miller.
Bonjour, comment allez-vous?
Très, très bien, vous. Est-ce que vous êtes en Floride présentement?
Tout à fait, oui, parfait. Oui. En Floride, oui, depuis des mois à préparer l'aventure et le commerce. Hum.
Comment, j'ai lu un peu votre biographie, mais comment un ex-golfeur professionnel en arrive à justement se lancer dans ce type de business en Floride?
Bien, c'est sûr qu'on dirait que le goût est venu très jeune. Mon amour pour le golf a fait que j'ai eu l'avantage et le plaisir d'aller à l'université à Tampa, en Floride. Mm-hmm. Donc voilà, mes premiers bons goûts de la Floride sont vraiment restés. Puis évidemment, comme vous l'avez dit, ma carrière de professionnel de golf a mené à de merveilleuses rencontres avec des golfeuses et des golfeurs tout au long de ces, je dirais, à peu près 38 à 39 ans dans le métier, à donner des leçons, à être professionnel de club, m'occuper des membres et tout ça. Donc, service à la clientèle, des belles relations. Souvent, on dit une partie de golf avec quelqu'un de 4-5 heures, c'est tellement privilégié qu'on a développé des super belles relations. Donc, vous pouvez imaginer au fil des 38 années, tous les golfeuses et les golfeurs là, que j'ai rencontrés qui ont, comme vous l'avez dit, sont des potentiels snowbirds, des oiseaux de la neige qui adorent la Floride, qui aiment continuer à pratiquer leur sport favori. Fait que ça a été assez simple pour moi de faire le suivi là-dessus. Puis j'ai mis deux et deux ensemble, puis tellement de gens qui me posaient des questions sur le marché de la Floride, sur aller prendre même des leçons de golf en Floride. Après ça, bien évidemment, se loger en Floride. Puis de fil en aiguille, on a vraiment décidé, mon partenaire, qui est une belle histoire aussi, qui était aussi mon roommate à l'université. On a gardé une super belle relation, donc il était d'origine américaine, il était américain du New Jersey. Et puis on a fait équipe ensemble, puis on a développé ça, cette Ice Palm, un petit jeu de mots dans la glace et les palmiers. Alors on part de la glace, on s'en va aux palmiers, puis...
Mais expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, l'idée de la surveillance de maisons en Floride pour des snowpeurs. C'est quoi les services concrets que vous offrez?
Ben écoutez, évidemment, quand vous quittez votre maison, toutes sortes de choses peuvent arriver. Puis là, voilà, c'est d'avoir des yeux. Je vous dirais que plusieurs personnes ont dû avoir quelqu'un, parce que évidemment, à partir pour 6 à 8 mois, ça prend quelqu'un. Souvent, c'était le voisin ou le gérant du building des condominiums. Mais on a amené ça à une étape un peu plus professionnelle en rentrant membre de l'association, la National Home Watch Association, qui regroupe tous les gens qui veulent faire ça comme commerce, comme professionnel. Mais voilà, comme vous avez posé la question, les services, ben c'est évidemment de surveiller la maison, mais vraiment d'avoir une entrevue avec le propriétaire de la maison, puis vraiment voir qu'est-ce qui sont les besoins importants de cette maison-là. Donc, évidemment, oui, l'air climatisé est primordial, surtout quand vous quittez, exemple, au mois d'avril, puis vous allez connaître peut-être seulement qu'au mois d'octobre. Les mois les plus chauds en Floride, c'est tellement important d'avoir un air climatisé qui fonctionne très bien. On ne peut même pas se permettre une semaine ou deux sans air climatisé, là, parce que l'humidité, ça devient la moisissure s'installe très rapidement. Donc toute cette vérification-là au niveau des systèmes de l'eau, évidemment, l'eau, on la ferme, mais des fois, on a oublié ou il y a des ordures qui ont été oubliées en quelque part. Donc, c'est une surveillance complète de la maison. Si c'est un condo, c'est un peu plus simple parce qu'on regarde à l'intérieur des quatre murs, mais si c'est une maison en Floride, ben on surveille l'extérieur, on va jusqu'à partir la voiture. Si vous avez laissé une voiture, là, on va même la faire rouler un petit peu. C'est question de garder la voiture en bonne forme. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire à votre maison, à vos propriétés, à vos choses ici en Floride, ben on s'en occupe. On est vos yeux et votre cœur et votre âme ici en Floride.
Est-ce que vous avez été plus occupé en raison de la pandémie? Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont décidé finalement de pas aller en Floride cette année. Donc, ils devaient être inquiets par rapport à leur maison. Est-ce que la pandémie a été une occasion pour vous d'avoir un élan supérieur pour l'entreprise?
Oui, écoutez, oui, tout à fait. Ça fait justement parce qu'on a commencé cette année, la curiosité est installée, puis les gens appelaient un peu plus. Je peux pas comparer d'une année à l'autre encore, mais mes collègues disent que oui, effectivement, à distance maintenant, les gens sont un petit peu plus soucieux. Alors, ils nous appellent plus pour demander des services professionnels et que ce soit des rénovations jusqu'au pendant justement qu'ils peuvent pas y aller, ils décident de refaire la cuisine ou refaire la salle de bain. Ben on est là pour surveiller les travaux puis être vraiment là pour un signe de confiance pour eux. Fait que oui, ça il y a eu une augmentation des services demandés parce que justement il y a moins de nos Québécois collègues qui sont là à cause de la pandémie.
Est-ce que vous faites les maisons de plus modestes ou vous faites des maisons de gens qui sont relativement riches?
Alors, c'est un vrai mélange complet de tout ça. Je vous dirais que les gens, tout le monde a besoin qu'on surveille sa maison, fait que peu importe, c'est vraiment égal. Je vous dirais qu'il y a un mélange de tout, des condos de 2 chambres à coucher, jusqu'aux maisons de luxe de plusieurs millions de dollars. Là, on se fait demander de surveiller ça, puis d'envoyer un rapport. C'est justement ce que je disais, avec l'association, on a accès à des super bons dossiers de rapports qu'on peut envoyer aux clients. Alors, les 25 points sont étudiés, sont cochés. Il y a des photos à l'appui avec nos GPS. Vous avez la preuve qu'on a visité votre maison à telle heure, à tel jour. Et comme ça, ça vous rassure vraiment qu'on fait le travail de façon bien professionnelle.
En terminant, quel genre d'investissement que ça nécessite? Est-ce que c'est des forfaits? C'est quoi à peu près la variation de prix pour ça?
Écoutez, c'est sûr que c'est très raisonnable. On peut figurer que les employés passent à peu près une heure à vérifier les choses du départ à la fin un peu là, fait que et puis on décide ensemble avec le client si on veut visiter une fois par semaine, une fois aux deux semaines, qui est, je vous dirais, le maximum. Il y en a des gens qui disaient bon, une fois par mois ça devrait être assez, mais j'avoue que ça, il peut avoir beaucoup de problèmes entre les visites, puis je le conseille pas. Donc ça peut commencer dans les alentours d'une quarantaine de dollars. Mm-hmm. Et puis selon la demande du client et les demandes du client, les points à surveiller, ben ça peut augmenter évidemment aussi par la grosseur de la maison. Mais de base, on pourrait dire là, une bonne visite avec un rapport envoyé, là, ça peut commencer dans les quarantaines de dollars. Fait que si on y va quelques fois par mois, ben, ça fait 80 $. Puis vous avez la tête en paix, comme quoi la maison est bien surveillée. Puis s'il y a des problèmes, on engage les professionnels du métier, là, les plombiers puis les experts en climatisation pour venir faire le travail. Puis on vous envoie le rapport.
Bon, bien, c'est une très bonne idée de service pour nos snowbirds québécois. Donc, je recevais Russell Miller, qui est de la compagnie Ice Palm International Conciergerie et Services, qui vient d'ouvrir des nouveaux services en Floride pour la surveillance des maisons de nos snowbirds québécois. Merci, M. Miller.
Sur un scène.
J'ai eu mon trassou.
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
On dit souvent que l'inflation est seulement à 1%, mais la réalité pour beaucoup de consommateurs est souvent tout autre quand ils se retrouvent au marché. En fait, des fois, on se pose la question, est-ce que Statistique Canada est souvent un peu dans les patates? Et pour en parler, évidemment, on reçoit notre chroniqueur en alimentation, Sylvain Charlebois, du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Salut Sylvain.
Bonjour Yves.
Évidemment, dans ta chronique que je lisais ce matin, Statistique Canada indique souvent des taux d'inflation alimentaire qui avoisinent le 1%, mais avec ton laboratoire et votre université, vous avez observer souvent que les prix d'augmentation d'un pour cent, ce n'est pas la réalité.
Bien, c'est ça. En fait, Statistique Canada a une méthodologie qui fait en sorte que lorsque les prix changent rapidement, j'ai l'impression qu'on mesure mal la volatilité des prix. Alors, c'est pour ça que souvent, là, si les gens se demandent, bon, pourquoi que Statistique Canada présente des chiffres qui n'ont pas d'allure, ben c'est un peu pour ça. Donc, ils font une collecte de données, mais il y a toujours un retard sur ce qu'ils rapportent. Nous, ce qu'on voit dans nos chiffres, c'est vraiment, vraiment différent. Là. Le taux d'inflation qui a été annoncé cette semaine pour janvier était de 1,2%, je crois. Mm-hmm. Nous, on prétend que c'est au-dessus de 3%. Donc, c'est pas une grosse, grosse différence. Et puis, les gens s'en rendent compte. Là. Les salaires bougent à peine. Et puis, on doit payer plus cher à l'épicerie. Alors, les gens s'en rendent compte pas mal. Là.
Dans ta chronique, tu parles beaucoup du phénomène. Bon, on voit les prix augmentent pour certains produits, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que de plus en plus, les produits qu'on achète, on voit que le contenu rapetisse. Tu appelles ça la fameuse shrinkflation. Explique-nous ça, ce phénomène-là.
Moi, j'ai appris cette semaine qu'il y a un mot français, c'est réduflation. Donc, shrinkflation. Je voulais en parler dans ma chronique parce que c'est un concept que je pense que tout le monde connaît, mais ça n'a peut-être pas le nom. Il y a un nom, c'est un phénomène qui existe depuis, je pense, je dirais à peu près 20 ans. Le phénomène s'est accentué durant la grande crise de 2008-2009, la crise financière. Là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les manufacturiers, l'industrie agroalimentaire ne voulaient pas faire trop peur aux consommateurs avec des prix plus élevés. Alors, au lieu de jouer avec les prix, on a décidé de jouer avec les quantités et diminuer les coûts. Alors, si vous vous rendez compte que, je sais pas, moins de chips dans votre sac, moins de biscuits dans votre emballage ou peu importe, si vous remarquez qu'il y a moins de bacon, et puis il y a effectivement moins de bacon là, par quantité, là, Vous allez, on appelle ça shrinkflation, réduflation. Alors, et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est mal mesuré par Statistique Canada aussi. Donc, on doit payer plus pour obtenir la même quantité ces jours-ci.
Est-ce qu'il y a des consommateurs qui se sont plaints de cette réalité-là? Parce que, effectivement, tu reviens au fameux sac de chips, là. Souvent, la moitié du sac, c'est de l'air maintenant.
Oh oui, non, absolument. En fait, j'entends parler, il y a des gens qui se plaignent de ça depuis à peu près 15 ans, mais ça s'est empiré. Cette semaine, Kraft Heinz et Conagra, les deux ont annoncé que les prix vont augmenter au centre du magasin pour le non périssable, le ketchup, tous les produits, la sauce à salade. Bon, moi, je pense pas que les prix vont augmenter. Je pense que les quantités vont diminuer. Alors, je demande à tout le monde de surveiller ça de près parce que c'est subtil. Hein? On s'en rend pas compte. D'ailleurs, il y a un an, on faisait une chasse aux œufs de Pâques. Là. On avait oublié un œuf Cadbury. Tu sais, les œufs Cadbury, là, 5 ans avant, puis on s'est rendu compte que l'œuf avait 10 grammes de moins. C'est comme ça qu'on s'en rend compte. Sinon, on s'en rend pas compte. Là.
Évidemment, avec l'augmentation des prix, bien évidemment, les gens, comme tu disais, les salaires n'augmentent pas, mais évidemment, les gens vont courir après les rabais. Puis il y a un phénomène très connu, ben, on en a beaucoup parlé là, dans le journal, qui est le couponnage. Là, les gens là, qui décident qu'ils prennent le Publisac ou les circulaires, puis ils en font un. Pas une business, mais l'idée, c'est qu'ils suivent ça, puis ils peuvent sauver souvent 500 $ par mois en épicerie. Ce phénomène-là, comment tu l'observes, toi?
Bien, moi, d'abord, quand j'ai lu l'article, j'ai été inspiré. Franchement, là, c'est quelqu'un qui se prend en main, qui, bon, son histoire, c'était pas drôle, là. Mm-hmm. Pas d'emploi, mère de famille. Elle s'est prise en main, elle a créé une business. Il y a toujours moyen de sauver de l'argent. Avec une stratégie, on sauve de l'argent. Le couponing est certainement une chose. Nous, ce qu'on on se rend compte au niveau du comportement, il y a des choses qu'on peut faire rapidement pour sauver de l'argent. D'abord, arrivez pas au magasin avec le ventre vide. Ça, c'est la pire affaire. Vous allez acheter des choses que vous n'avez pas de besoin. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'en amenant les enfants, si vous avez le choix, là, amenez pas vos enfants parce que vous allez acheter des choses. Et plus que vous passez de temps dans le magasin, plus que vous allez acheter des choses que vous n'avez pas besoin non plus. Alors, limitez votre visite à, je ne sais pas moi, 25 à 30 minutes si vous pouvez. Ce sont des petites choses qu'on peut faire pour sauver de l'argent, mais le couponing, à mon avis, là, on n'aurait pas gêné. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est disponible pour les consommateurs.
Tu fais référence dans ta chronique au fait qu'on devrait s'abstenir de faire des achats en ligne. Pour quelle raison?
Parce que les prix sont plus chers puis il y a peu d'aubaine. Peu ou pas d'aubaine. C'est rare. Si on se déplace, on va être récompensé. Si on reste à la maison, évidemment, c'est pratique, là. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, là. Surtout en hiver, là. Mais si vous pouvez vous déplacer, là, c'est certain que vous allez avoir accès à plus d'aubaines. Puis, en plus, souvent, il y a souvent des tablettes qui offrent des produits dont la date de péremption est la journée même ou le lendemain. Là. Puis souvent, ces produits sont offerts à moitié prix. Il n'y a pas de ça en ligne. Alors, si vous pouvez vous déplacer, allez-y.
Donc, on va profiter de ce conseil-là de la prime à la porte plutôt que la prime en ligne. Et évidemment, on va suivre tes conseils. Donc, pas faire d'épicerie quand on a faim puis pas emmener nos enfants. Puis on risque d'économiser. Hey, merci beaucoup, Sylvain Charlebois, qui est responsable du laboratoire en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Merci, Sylvain.
Que l'argent fasse le bonheur. Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard.
Le gouvernement Legault a annoncé hier une nouvelle importante dans le secteur économique, là, des millions de dollars en aide publique pour la création de 600 emplois, 100 000 $ dans le secteur de l'aérospatial. Or, pour en discuter, je reçois le journaliste qui a couvert ce secteur-là et évidemment la nouvelle d'hier, Sylvain Larocque, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Sylvain.
Salut Yves.
Vraiment grosse annonce. Hier, on voyait quand même que le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, et le premier ministre étaient contents de parler d'autres choses de la COVID. Mais on en avait déjà parlé, là, que c'était un projet d'à peu près un milliard. Et là, le détail est sorti hier. Donc, exactement, c'est quoi la nouvelle qui a été annoncée hier en termes de ce projet-là de satellite?
Bien, on appelle ça des constellations de satellites. C'est une nouvelle technologie. C'est des satellites qui sont placés en orbite basse, donc plus bas que les autres satellites traditionnels. Et donc, ils sont plus proches de la Terre et donc, ils peuvent la rapidité de communication est meilleure, comme ils sont moins loin. Il y a plusieurs projets comme ça dans le monde. Il y a Elon Musk qui a un projet comme ça. Il y a Amazon. Et il y a Telesat, qui est une ancienne société d'État fédéral créée en 1969, qui a son projet à elle, qui s'appelle Lightspeed. Mm-hmm. Et donc, ça faisait quand même 2 ans là, qu'ils travaillent là-dessus. Et on ne savait pas où ils allaient faire ces satellites-là et où ils allaient les contrôler. Et là, ce qu'on a appris hier, finalement, c'est que tout ça va se faire en grande partie au Québec. Les antennes des satellites vont être fabriquées chez MDA à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la ville où a grandi François Legault. Là, il se sentait obligé de
le mentionner
à plusieurs reprises. Et le centre de contrôle de ce réseau-là, Lightspeed, serait à Gatineau, pas très loin du siège social de Télésat qui est à Ottawa. Donc, 1,8 milliard d'investissements au Québec dans le cadre de ce projet-là. Le projet au complet, c'est 6,5 milliards, mais on aurait quand même au Québec une partie importante des investissements. Alors, c'est une très, très grosse annonce économique. On voit vraiment pas ça tous les jours. Il y a des années qu'on voit pas des annonces économiques de cette ampleur-là au Québec. Donc, on peut quand même comprendre M. Legault et M. Fitzgibbon d'avoir été assez excités par ça. Il reste quand même la question, est-ce que ce projet-là va vraiment voir le jour? Je pense qu'il reste encore un peu d'incertitude là-dessus, parce qu'on parle de haute technologie et on parle aussi de beaucoup, beaucoup d'argent et ça prend de la demande, ça prend des clients à un moment donné pour financer un projet comme ça. Et je pense qu'il reste quand même des incertitudes à cet égard.
Mais est-ce que tu dis, c'est qu'actuellement, le projet lui-même, il décolle pas déjà? Autrement dit, MDA travaille pas déjà à construire ces antennes-là pour Telesat?
Bien, d'après moi, il y a déjà eu du travail de R&D qui a été commencé, mais je pense que le gros du travail reste à faire là, en termes de développement et tout ça. Donc, je dis pas que ça verra pas le jour, mais c'est... Il faut quand même se méfier quand tu vois des projets de cette ampleur-là. Plus c'est gros, plus c'est complexe, plus il peut y avoir des embûches. Fait que ça se peut que ça soit moins gros, que ça soit plus lent à se développer. Eux, Telesat, ils parlent de lancer des satellites dès 2022-23, donc ça vient quand même rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a un gros jalon qui a été franchi avec le financement du gouvernement du Québec. C'est quand même 450 millions du gouvernement. C'est rare que le gouvernement met autant d'argent dans un seul projet. Il y avait eu évidemment le milliard dans la CCUIS, mais c'était vraiment exceptionnel. Mais 450 millions, dont un bon 50 millions qui est vraiment une subvention, en fait, là. C'est quand même le gouvernement Legault mise quand même très gros là-dessus.
Donc, ce que tu dis, c'est à la fois sous forme de prêt, mais aussi sous forme de placement en actions privilégiées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'il y a une co-entreprise qui est créée dans laquelle on se retrouve avec des actions du gouvernement du Québec?
Bien, ça, c'était pas clair hier exactement à qui prêtait le gouvernement. Et ça va devenir important parce que quand tu prêtes de l'argent, tu veux que l'entreprise à qui tu prêtes soit solvable. Est-ce qu'on prête à... Ça semblait pas être à Telesat. On parlait d'un genre de co-entreprise ou de structure à part. Donc ça peut augmenter le risque quand même. Là. Il va falloir qu'on revienne à la charge un peu là-dessus. Parce que Telesat, c'est une société établie depuis longtemps. Donc ça, c'est plus sécuritaire. Mais si c'est une entreprise, une coquille séparée, moi, je verrais quand même un risque plus élevé. Monsieur Fitzgibbon a dit que le risque était modéré. Bon, c'est de bonne garde de sa part de dire ça. Mais je pense que... Et il y a quand même 50 millions de subventions que... Lui, il appelle ça des prêts pardonnables. C'est-à-dire qu'il dit qu'il prête de l'argent à l'entreprise. L'entreprise n'aura pas à le remettre si elle crée les emplois promis. Mais dans le fond, moi, j'appelle ça une subvention. C'est une subvention qui serait remboursable si jamais les emplois n'étaient pas créés. Mais donc, je pense que c'est plus précis de parler de subvention.
Juste me rappeler, MDA, c'est l'actionnariat est ontarien. Qu'en est-il de Telesat au niveau de son actionnariat?
Télésat, je pense que le gros des actions est détenu par une entreprise américaine qui s'appelle Laurel Space, mais il y a aussi le régime de pension du Canada qui est ou le régime, un des régimes de pension fédéraux, le PSP, qui est actionnaire aussi, mais je pense qu'ils ont plus de droits de vote comme Télésat, c'est une ancienne société déjà fédérale. Ça doit être contrôlé par des Canadiens, donc ils ont trouvé une façon de donner le contrôle aux Canadiens. Pour ce qui est de MDA, ben c'était américain et là c'est redevenu canadien l'année passée. Il y a eu un groupe d'acheteurs dont M. Balsillie, l'ancien fondateur de BlackBerry, et d'autres qui ont racheté MDA. Et il y a aussi le fonds FTQ qui a pris une participation. Donc ça, c'est redevenu canadien. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un gros joueur dans le secteur spatial. Ils font des satellites. Ils ont aussi fait les différentes versions du bras canadien là, dans l'espace. Donc, c'est une entreprise très stratégique. Et je te dirais que si ça fonctionne, on peut espérer que ça va fonctionner. C'est vrai que ça va positionner beaucoup le Québec dans le secteur spatial. Au Québec, on est fort en aéronautique, là, dans le côté avion avec Airbus, Bombardier, Bell Hélicoptère et tout ça. Mais on a toujours été moins fort en spatial. Et ça fait des années que l'industrie veut se développer dans ce secteur-là. Et là, si on a un centre de contrôle de satellites, on a une usine de fabrication de satellites ici, c'est quand même quelque chose qui va aider beaucoup l'industrie au Québec.
OK. Ben, je pense que c'est un secteur qu'on va devoir suivre. Évidemment, bonne nouvelle économique. Évidemment, on va avoir à surveiller nos intérêts financiers comme fonds publics là-dedans pour s'assurer qu'on perd pas trop aux changes si jamais il y a des problèmes. Et donc, tu vas probablement suivre ce dossier-là au cours des prochains mois. Donc, c'était Sylvain Larocque, qui est journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci, Sylvain.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
On sait qu'avec la pandémie, beaucoup de Québécois ont dû recourir à la PCU ou à toutes sortes d'aides de Justin Trudeau pour passer à travers soit la perte d'emploi, soit de l'aide avec un collègue, etc. Donc, plusieurs ont profité de cette aide-là. D'autres ont continué à travailler, puis évidemment, ils ont moins dépensé, donc ils ont accumulé leur beaucoup d'épargne pendant cette période-là. Mais évidemment, l'endettement reste toujours un sujet très important. Et pour en discuter, je reçois Emmanuel Grill, qui est chroniqueur en finances personnelles au Journal de Montréal et qui vient de lancer son livre qui s'appelle « 99 trucs pour réduire l'endettement ». Bonjour Emmanuel.
Bonjour Yves.
Bien, d'abord, félicitations pour le lancement de ce livre qui va certainement intéresser les Québécois au moment où ce que l'aide gouvernementale va diminuer au cours des prochains mois.
Bien, merci beaucoup. En effet, j'espère que ça va aider beaucoup de gens qui ont des problèmes d'endettement.
Pourquoi avoir écrit ce livre-là à ce moment-ci? Est-ce qu'on... On était préoccupé par l'endettement, mais est-ce que l'endettement est encore un sujet qui préoccupe beaucoup les Québécois?
Oh oui, oui, oui. Et puis, je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. C'est juste que pour le moment, avec la COVID, avec la pandémie, on a comme une vision un peu biaisée de la situation. Parce que jusqu'avant la pandémie, par exemple, au premier trimestre de 2020, le taux d'endettement des Québécois était très, très, très élevé. Au Canada, on est rendu à 177% d'endettement pour chaque personne. Donc, ça signifie que chaque fois qu'on gagne $1 de revenu, on est endetté de $1,77. Avec la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont moins dépensé, par exemple, ont moins dépensé dans le transport, dans les voyages, dans le restaurant, évidemment. Donc, il y a des gens qui ont eu la chance de conserver leur emploi ont pu épargner. les gens qui ont touché la PCU ou des aides gouvernementales aussi, bien souvent, ils ont réussi à reporter certains paiements comme des cartes de crédit, des taxes municipales, etc. Ce qui fait qu'ils en ont profité pour payer leurs cartes de crédit. Alors, on peut avoir le sentiment, mais honnêtement, je crois que c'est peut-être un petit peu artificiel et temporaire, que le taux d'endettement général a baissé. D'ailleurs, le taux d'épargne a augmenté aussi parallèlement, mais à mon avis, c'est temporaire parce que actuellement, c'est comme si on était sous un respirateur artificiel. Donc, avec les aides gouvernementales, mais tôt ou tard, bon, ça va revenir à la situation d'avant la pandémie, et puis l'endettement va revenir à son niveau d'antan parce que c'est très difficile d'échapper à l'endettement aujourd'hui parce que les instruments de crédit sont très nombreux. Il y a des cartes de crédit, il y a des marges hypothécaires, il y a des marges de crédit ordinaires. Donc, et puis, la société de consommation dans laquelle on vit est remplie de tentations. Donc, il faut vraiment être très, très fort et avoir beaucoup de volonté pour échapper à l'endettement aujourd'hui. On est toujours tenté d'acheter quelque chose. Et puis, pour ça, bien souvent, on est obligé d'avoir recours au crédit parce qu'on n'a pas nécessairement les liquidités nécessaires. Alors, voilà,
mais est-ce qu'on peut, on peut-tu identifier justement ces comportements-là qui sont à peu près communs à tous ceux qui s'endettent? C'est quoi ces comportements-là?
Oui, en fait, l'endettement, c'est vraiment un sujet tabou. Les gens qui sont endettés, et même très endettés, souvent, ils ne doivent pas en parler parce qu'ils ont honte. Ce qui fait que l'endettement, c'est comme des sables mouvants, en fait. On bouge, on pense qu'on va essayer de s'en sortir, mais dans le fond, on va essayer de s'en sortir tout seul, mais dans le fond, on s'enfonce dans les sables mouvants et puis notre situation ne s'améliore pas. Au contraire, bien souvent, elle empire parce qu'on pose pas les bons gestes. En fait, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour aider les gens à réaliser que l'endettement, il faut en parler justement parce que quand on en parle, on réalise quelle est la situation dans laquelle on est et puis surtout, on va chercher de l'aide. Et quand on est endetté, il faut agir le plus vite possible parce que plus on attend, plus notre situation va se dégrader et moins on va avoir accès à des solutions. Par exemple, quand on est très endetté, notre dossier de crédit est très entaché. Donc, par exemple, on ne sera pas capable d'obtenir un prêt de consolidation de dette auprès de son institution financière. On va tout de suite être obligé d'aller voir un syndic autorisant notre solvabilité qui va nous proposer donc une faillite ou une proposition de consommateur. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de honte là qui est généralisé chez les gens endettés.
La question que beaucoup de gens se posent souvent, c'est est-ce qu'il y a une bonne et ou une mauvaise dette? Par exemple, tu peux avoir une dette hypothécaire, mais l'actif que tu as, qui est une maison, prend quand même de la valeur. Est-ce que c'est quoi une mauvaise dette puis c'est quoi une bonne dette?
C'est sûr qu'il y a des opinions différentes là-dessus. Bon, il y a des gens qui disent qu'effectivement, par exemple, une hypothèque, c'est une bonne dette parce que c'est garanti par notre propriété. Puis comme tu le disais, la propriété prend de la valeur. Par contre, il y a des dettes qui sont vraiment toxiques, notamment les dettes avec des taux d'intérêt très, très élevés, les dettes de consommation, par exemple, les cartes de crédit. Ça, c'est un endettement. C'est terrible comme endettement parce que ça s'installe insidieusement. Bien souvent, on va payer seulement le paiement, on va effectuer seulement le paiement minimum chaque mois, ce qui fait qu'on ne sera jamais capable de faire baisser le capital. Et puis, avec les taux d'intérêt habituellement qu'il y a sur les cartes de crédit, pas loin de 20%, ben c'est sûr qu'on s'en sort jamais. Il y a aussi un produit qui est très populaire actuellement, c'est les marges de crédit, et puis également les marges de crédit hypothécaires qui sont vraiment poussées moussées même par les institutions financières, parce qu'une marge hypothécaire, évidemment, pour eux, ça représente pas beaucoup de risques parce que c'est garanti par notre propriété. Sauf que le problème avec les marges, c'est que il n'y a pas de plan de remboursement fixe et tous les mois, on est seulement obligé de rembourser que les intérêts. Donc, si tu veux, on peut être endetté jusqu'à la fin des temps parce qu'on va seulement rembourser les intérêts, jamais le capital, et puis on peut étirer son remboursement aussi longtemps qu'on le souhaite. Il n'y a pas de délai fixe comme pour un prêt, par exemple, sur 2 ans, sur 3 ans ou 5 ans. Alors, c'est vraiment des endettements problématiques.
Écoute, Emmanuel, j'ai lu ton livre du début jusqu'à la fin. C'est rempli de conseils pour justement gérer ses dettes et avoir une vie financière pas mal plus saine à la sortie de la lecture de ton livre. Donc, j'invite les gens à aller acheter ton livre. Donc, je rappelle, le livre s'appelle « 99 trucs pour réduire l'endettement ». C'est au nom de Emmanuel Gris, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci Emmanuel et bonne chance dans la vente de ton livre.
Et Michel Gérard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
On parle beaucoup de la folie immobilière. De plus en plus d'acheteurs de maisons sont tellement motivés et excités à acheter une nouvelle propriété que des fois, ils sautent des étapes à l'achat. Donc, un rêve qui peut tourner au cauchemar. Donc, pour parler de tout ce qui touche l'immobilier puis justement l'achat d'une maison, je reçois Stéphane Desjardins, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Stéphane.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi. Écoute, dans une de tes chroniques, là, ce qui était fascinant, c'est que tu as rappelé aux gens que justement, quand on achète une propriété, là, c'est beau une fois qu'on a passé le contrat, mais il y a plein de frais cachés qu'il ne faut jamais oublier quand on pense à acheter une maison. Rappelle-nous ces fameux frais cachés-là.
Bien, il y a des frais qui sont intrinsèquement liés à la transaction. Concrètement, tu ne peux pas passer à côté, par exemple, de la taxe de bienvenue, les fameux droits de mutation. Mm-hmm. Ça, on parle souvent de milliers de dollars, 2,9% de la valeur de la propriété. Il y a aussi le notaire. Concrètement, les gens ils négligent ça, mais ils ne devraient pas. On engage souvent un inspecteur pour inspecter la maison pour savoir quels sont les problèmes qui sont liés à la propriété pour souvent négocier d'ailleurs le prix d'achat. Mm-hmm. Des fois, le prêteur exige une évaluation. Il y a le certificat de localisation. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée d'acheter une assurance titre pour être bien certain que si que tu achètes, il n'y a pas personne qui va te l'enlever à un moment donné. À certains endroits, là, on parle de faire analyser le sol pour éviter d'avoir des problèmes, par exemple, avec la pyrotite ou des choses comme ça. Puis finalement, quand tu achètes une propriété neuve, il y a les taxes, TPS, TVQ. Fait que concrètement, là, on parle souvent de montants là, qui jouent entre 500, 700, 1000$, 1500$. Quand tu as 5, 6, 7, 8 affaires comme ça, là, tu peux te retrouver avec une facture imprévue assez élevée.
Mmh. Autrement dit, les gens, des fois, ils négligent ces éléments-là, puis ils se retrouvent effectivement que le prix d'achat, c'était beau, ils ont eu le financement, mais après ça, ils sont obligés d'aller sur une marge de crédit pour payer tous ces frais additionnels qu'ils n'avaient pas anticipés.
Ben, l'autre affaire aussi, c'est qu'une fois que tu t'installes, une fois que tu l'as acheté, la maison, là, il y a des affaires que tu n'as pas pensé, par exemple, déménager. OK, il y a bien du monde qui déménage en chum, là, puis il faut louer un camion, c'est 300$, puis là, tu payes la pizza, tu payes le kilométrage. Des fois, le kilométrage, c'est sous-estimé. Sinon, les déménageurs, c'est facilement le 1000 à 2 à 3000$, un déménagement. Là. Mm-hmm. Évidemment, il y a les frais de service public, là. Par exemple, certains le CAB. J'ai pas besoin de faire la liste. Certains demandent un acompte là pour ouvrir le compte. Mm-hmm. Mais les choses qui sont le plus sous-estimées, Yves, c'est aménager la maison. Par exemple, faut bien mettre des stores, des rideaux dans les fenêtres. Mm-hmm. Ben c'est 30 à 600$ la fenêtre selon la taille de la fenêtre, puis le rideau, puis le type de rideau, le type de store. Il faut s'acheter parfois des outils, une tondeuse, une souffleuse, des meubles de jardin. Mm-hmm. Il y en a qui veulent s'installer un système d'irrigation parce que ça fait toute une différence pour entretenir la pelouse, je peux te le dire. C'est 3000$ ce système d'irrigation facile. Là. Mm-hmm. Les meubles de jardin, là, c'est 1000$ facile. Si, par exemple, il y a un puits ou un système septique, ben faut le faire inspecter, c'est 200 piastres. Mm. Puis là, ben, on n'a pas parlé des électroménagers, là on est parti en grand. Là. Mm.
On parlait de tantôt au début de l'introduction du marché qui est en pleine ébullition à Montréal et à Québec, puis il y a tellement de surenchères actuellement. Et tu écrivais que maintenant, les acheteurs doivent désormais se vendre eux-mêmes. Comment ils font ça?
Écoute, moi, quand j'ai appris ça de la part d'agents d'immeubles, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est rendu que pour te démarquer dans un phénomène de surenchère où plusieurs acheteurs proposent des offres et évidemment s'obstinent sur le prix, en plus, il y en a qui écrivent une petite lettre à la main, sur du beau papier, en disant, écoutez, nous, on est un beau petit couple, puis on a considéré que votre maison, on est en amour avec, on va s'en occuper, c'est là qu'on veut faire grandir nos enfants, etc. Vous allez voir, on va s'occuper du beau jardin que vous avez aménagé. Moi, je suis concepteur en informatique, ma femme est infirmière. Tu sais, ce genre de petits laïus de vente qui jouent beaucoup sur les émotions. Bien, je veux dire, une affaire, là, les agents d'immeubles avec qui j'ai jasé de ça, ils en reçoivent 2, 3, 4 par semaine en ce moment.
Est-ce que ça marche?
Ça marche. Dans certains cas, ça marche. Évidemment, tu peux pas. Si t'as un gars qui fait 9, 10 000 piastres plus fort que toi, oublie ça, là. Mm-hmm. Tu sais, t'as aucune chance. Mais dans certains cas, et ça marche assez souvent d'après les agents d'immeubles, parce que c'est un peu comme de la psychologie inversée. T'sais, aujourd'hui, on vit dans un monde froid où tout se fait par le web, les offres s'échangent par ordinateur, mm-hmm. par puis il y a presque plus de tractation entre le vendeur, les agents d'immeubles, les acheteurs. Puis là tu arrives avec une belle petite lettre, puis la photo de tes deux enfants avec le chien, là. Écoute, ça a l'air que ça fonctionne très, très bien. Mais ça t'indique qu'on est rendu dans une époque un peu, t'expliquer ça, un peu froide, hein, pour dire le moins. Mais oui, les petites lettres pour présenter sa petite famille, c'est un outil de plus pour être capable d'acheter des maisons qui sont convoitées.
Hey Stéphane, on va continuer à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur tous les sujets de finances personnelles et évidemment l'immobilier, parce que l'immobilier, il ne faut pas oublier, c'est un des actifs les plus importants des Québécois et c'est un achat qui est extrêmement important. Donc, c'était Stéphane Desjardins qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
Verrez sur un scène.
J'ai eu mon trassou.
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
La PCU de Justin Trudeau, là, on dit que c'est un gros lot d'impôts pour François Legault et pas juste François Legault, mais pour toutes les provinces. Là, à l'instar de tous les gouvernements provinciaux, le gouvernement Legault profite largement des nombreuses et alléchantes prestations que le gouvernement Justin Trudeau a versées en 2020 aux prestataires. Et pour en parler, je parle encore avec notre chroniqueur, Michel Girard. Salut Michel.
Oui, alors, salut.
Salut. Écoute, comment il se fait que les bénéficiaires de la PCU de Trudeau vont profiter à François Legault?
Bien, ce qui arrive, c'est que les prestations, la PCU et toutes les autres prestations, il y en a un paquet, là. Il y en a pour près de 200 milliards, c'est pas compliqué. Mm-hmm. Alors, ce qui arrive, c'est que ces prestations-là sont imposables. Alors, mais tu sais, que Justin Trudeau, que le gouvernement fédéral, c'est lui-même qui les verse, là. Puis on sait que quand on parle du gouvernement fédéral, c'est tous les contribuables canadiens, à même nos impôts, nos taxes, là. Mm-hmm. Il a versé. Alors que le gouvernement fédéral, reçoive, récolte de l'impôt et de l'impôt notamment sur les prestations, bon, il n'y a rien là, ça va juste réduire la facture finale qu'il doit absorber par rapport aux prestations qu'il a versées aux victimes de la COVID-19. Mais que les gouvernements provinciaux empochent une ristourne, c'est le moins qu'on puisse dire, d'impôts sur ces prestations-là. Moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Parce que c'est pas ça le but. Le but des prestations, c'est d'aider les victimes, c'est pas d'aider les gouvernements. Mm-hmm. Que le gouvernement fédéral accorde une autre aide, ça, c'est différent, mais pas à même les fichus de prestations. Tu vois, pour le gouvernement du Québec, c'est des rentrées d'impôts minimum là, de 5 milliards de dollars. Alors, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est tout simplement que Trudeau réduise le montant de sa prestation à l'origine en tenant compte du fait qu'elle ne serait pas imposée au niveau provincial. Ce qui veut dire que notre facture canadienne de la PCU et autres prestations aurait été inférieure à celle que l'on doit absorber à l'heure actuelle, puis qu'on l'on va faire supporter par l'ensemble des Canadiens.
Donc, ce que tu dis actuellement sur les 36 milliards de prestations qui ont été versées des Québécois, le gouvernement local, puis évidemment le ministre du Revenu, vont encaisser 5 milliards de dollars.
Oui, au minimum, là.
Incroyable.
Minimum. Alors, parce que c'est un revenu imposable. Là où j'en ai, moi, puis là je vois bien, il y a des réactions, des gens qui disent, ouais, mais nous, les Québécois aussi, on paye pour ces... Ben oui, mais je le sais, le problème, il n'est pas là, c'est qu'il aurait fallu à l'origine que la prestation versée, au lieu de verser 500 $, elle aurait pu verser 450 $ ou 400 $ en tenant compte du fait qu'elle n'aurait pas été imposable au niveau provincial. Mmh. Alors, parce que c'est pas ça le but de la prestation, c'est pas d'engraisser les gouvernements, là. C'est d'aider les victimes à passer à travers la COVID-19 financièrement. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est complètement déplacé. Puis que parce que là, finalement, regarde, on paye de l'impôt. C'est nous, l'ensemble des Canadiens, les Québécois et tous ceux des autres provinces qui allons absorber ces 200 milliards de prestations que le gouvernement fédéral verse. On n'avait pas à prendre ces prestations-là puis à en verser une ristourne aux provinces. C'est là que c'est ridicule.
Comme tu dis, ça va grandement aider le ministre des Finances à renflouer ses coffres.
Oui, ben oui. Alors, tu sais, on peut prendre ça comme étant, entre guillemets, la bonne nouvelle, mais entre nous, là, ça me fait suer de voir que Québec et les autres provinces empochent des ristournes sur la prestation, la PCU et les autres prestations fédérales que l'on doit payer collectivement, évidemment.
Mais en tout cas, ça va permettre au moins à Éric Girard de ne pas dépasser son déficit qui était de 15 milliards prévu pour le 31 mars prochain. Et donc,
je vois en toi un homme positif.
C'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci, Michel.
Cube Radio.